travers les lectures que nous avons entendues, c'est le thème de la conversion que l'Église nous propose de contempler en ce dimanche, en ce jour du Seigneur. C'est aussi une grande fête parce que c'est la fête d'une grande sainte, Thérèse de l'Enfant Jésus, et la Carmélite. Et elle est incroyable parce qu'ayant vécu d'abord entrée à 15 ans au Carmel et puis morte à 22, je crois, elle a parcouru un chemin complet de sainteté en seulement quelques années. Personne ne la connaissait au moment de sa mort, sauf quelques missionnaires, parce qu'il était d'usage à l'époque qu'une religieuse prenne en charge et prie pour lui, donc, un missionnaire parti dans le monde quelque part. Et prendre en charge, ça voulait dire aussi l'encourager en lui écrivant. Il nous reste comme ça des lettres qui sont vraiment très précieuses. Mais après sa mort, il y a plusieurs saints comme elle, mais alors elle, c'est inimaginable. Eh bien, après sa mort, la publication de ses cahiers et les miracles tout court de conversion se sont multipliés. Elle est devenue docteur de l'Église en très peu de temps, docteur de l'Église, celle qui montre aux croyants le chemin sûr. Alors, parmi tous les textes de Thérèse, j'en ai choisi un, mais qui nous dit vraiment le fond de son cœur, le fond de son âme. Elle écrit à sa sœur Céline: la vie sera courte, l'éternité est sans fin. Faisons de notre vie un sacrifice continuel, un martyr d'amour pour consoler Jésus. Il ne veut qu'un regard et un soupir qui soient pour lui seul. Que tous les instants de notre vie soient pour lui seul. Que les créatures ne nous touchent qu'en passant. Il n'y a qu'une seule chose à faire pendant la nuit de cette vie, l'unique nuit qui ne viendra qu'une fois, c'est d'aimer. D'aimer Jésus de toute la force de notre cœur et de lui sauver des âmes pour qu'il soit aimé. Oh, faire aimer Jésus. Voilà, elle était très missionnaire, tout en étant contemplative, Thérèse, parce que la prière, eh bien, embrasse l'humanité en général. Elle nous dit que la vie est courte, ça, on le sait bien, mais on n'y pense pas beaucoup. Tandis que Thérèse, elle, comme les pères du désert d'ailleurs, elle y pensait sans cesse. Elle ne voulait pas perdre une minute de sa journée parce qu'elle savait très bien que cette minute ne reviendrait pas et que c'était une occasion manquée de dire à Jésus qu'elle l'aimait. Quant à l'éternité, elle est sans fin. Et là, nous aurons le temps, eh bien, de prendre notre temps. Mais en cette vie, la foi n'a pas le temps. Elle veut faire de sa vie un sacrifice continuel, un martyr d'amour, dit-elle. Martyr, c'est synonyme d'holocauste. C'est être que tout ce qu'elle est, tout ce qui compose et tisse son existence soit consacré à Dieu. Martyr d'amour. Elle était très unie, surtout à la fin de sa vie, à la passion. Elle a vécu l'absence de foi, enfin, elle avait la foi, mais la sensation de la foi, elle l'a perdue à la fin de sa vie parce qu'elle voulait prier pour sauver des âmes, comme elle le dit là, à la fin de ce passage. Participer à la passion du Christ. Alors que sa spiritualité est toute lumineuse, sa petite voix n'est pas quelque chose de sévère, mais en même temps, c'est le chemin de la sainteté, c'est très exigeant. Elle manifeste sans cesse qu'elle est pécheresse, c'est-à-dire imparfaite. Mais que ça n'est pas un obstacle à l'amour divin. Jésus lui parle des prostituées, des publicains, qui viennent écouter Jean le Baptiste au désert. Elle a fait pareil. Et elle invite tous ceux qui l'écoutent à faire de même. Et elle explique donc que ce martyre d'amour, c'est que tous les instants de notre vie soient pour lui seul. Jésus ne veut qu'une chose, quand nous prions. C'est vrai que on a besoin de temps parce que pour faire silence, pour être capable, eh bien, de formuler enfin ce regard, ce soupir qui ne soit que pour Jésus seul. Alors que dans notre prière, dans toute la préparation de notre prière, si les religieux prient si longtemps, c'est pour être préparés, enfin, à réussir au bout d'une heure à regarder le Seigneur et à lui dire, de tout leur cœur, qu'ils l'aiment. Donc c'est quelque chose de difficile pour nous, la prière. Mais en même temps, en soi, on n'a pas besoin de prier des heures. En soi, il faut vraiment se tourner de tout son cœur, là, comme un enfant sait le faire, envers ceux qu'il aime, de tout son cœur vers Jésus, vers Dieu, et dire, eh bien, que nous l'aimons. Laissez le cœur dire cela, même si ça ne dure que quelques secondes, quelques minutes, c'est la seule chose que Dieu veuille entendre. Il ne nous demande pas la perfection. Donc, elle appelle cette existence terrestre la nuit de cette vie. Thérèse ne se fait pas d'illusions sur le fait que l'existence terrestre n'est pas ordonnée à la béatitude. Au bonheur éventuellement, mais pas, jamais à la béatitude, jamais à l'absence de combat ni d'épreuves. C'est vrai qu'au milieu des épreuves, par la foi, eh bien, nous pouvons conserver la paix intérieure et même la joie. Mais c'est le fruit d'un dur combat. Tandis que la béatitude au ciel, ça ne requiert aucun combat. C'est une lumière qui nous irradie continuellement et qui nous porte. Donc, la béatitude ici-bas de Thérèse, de l'enfant Jésus, c'était d'aimer Jésus et de le faire aimer de beaucoup d'âmes. Voilà le sens de ce passage qui est très beau. Et à mon avis, il est bien dans la tonalité de cette parabole de Jésus et la conclusion en particulier. Il regarde, non pas lui-même, mais Jean le Baptiste. Et il dit, eh bien, que celui-ci est venu par le chemin de la justice. C'est quoi? C'est toute la vocation de Jean-Baptiste au désert. La justice, c'est quoi? C'est la vérité d'une part, et c'est la loi du Seigneur d'autre part. Ça contient ça, ça veut dire ça, justice. Dieu seul est juste, ajoutent les prophètes et le psalmiste souvent. Ils étaient allés au désert parce qu'ils recherchaient la vérité. Vous voyez, le peuple, ceux à qui s'adresse Jésus ici, à savoir les autorités religieuses et les anciens, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui structure le peuple, qui l'encadre, eh bien ceux-là étaient obsédés par la sainteté, par la perfection justement. Et Jésus, en leur opposant les publicains, les pécheurs, les prostituées, leur montre que c'est pas, la sainteté n'est pas synonyme de perfection. La perfection, c'est réservé au ciel, c'est réservé à Dieu. Au ciel, oui, nous serons parfaits, parce que nous serons dans le royaume de la perfection. Ce n'est pas le cas ici-bas, et Jésus fait ce rappel extrêmement nécessaire. Et la sainteté, c'est synonyme de droiture, d'accueil de la vérité, de recherche de la vérité. Et Jésus sait très bien que nous sommes des pécheurs, il ne se soucie donc pas de la perfection de nos actes, parce qu'il sait que nous en sommes incapables. Même les saints n'ont pas pu être parfaits, c'était impossible. Mais ce qu'il nous demande, ce qu'il demande par exemple à Pilate, au moment du procès, quand il dialogue avec lui, « Je ne suis venu en ce monde que pour une seule chose, rendre témoignage à la vérité. » Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc à Pilate, il ne demande pas grand-chose par définition, mais il lui ouvre la porte du salut, il la lui montre de loin. Les pécheurs, les prostituées, eh bien, étaient de la vérité. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne veut pas dire connaître la vérité à l'avance. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire être tendu vers la vérité, être en état de recherche de la vérité, être en état d'écoute de la vérité, et lorsqu'elle éclate, on la reconnaît. Il disait donc à Pilate ce qu'il dit ici des publicains et des prostituées. Va donc au désert et tu ne pourras pas entendre Jean-Baptiste, il a été décapité. Mais au désert, tu trouveras toujours eh bien, une voix, même intérieure, fut-elle, qui te parlera. Ce que Jésus nous demande, ce sera ma conclusion, c'est donc pas grand-chose comme à Pilate. Il veut seulement que nous acceptions de nous reconnaître pécheurs. Que le péché ne soit pas pour nous, eh bien, une règle de vie. Que nous ne fassions pas du péché notre logique d'action pour gommer le péché. Dans ses critiques, envers justement scribes, pharisiens, etc., toutes ces autorités religieuses, Jésus leur dit toujours qu'ils trahissent la loi afin de l'adapter à leur propre genre de vie personnelle, de sorte que, mis à leur hauteur et à leur mesure, eh bien, la loi devienne réalisable et qu'ils puissent réaliser une vie parfaite. Mais pour ça, il faut gauchir la loi, parce que la loi est fondée sur l'amour et la vérité. Et rien que ça, ça nous empêche d'être parfaits et d'atteindre la perfection. Jésus nous dit « Reconnaissez-vous pécheurs et vous serez sauvés ». Mais reconnaître pécheur, ce n'est pas seulement se dire, comme beaucoup se disent dans le monde, « Oh ben, je ne suis pas parfait, j'ai des défauts ». Ça n'apporte pas le salut. Ça apporte la connaissance de soi, une certaine humilité psychologique, mais rien de plus. Non, se reconnaître pécheur implique forcément de le faire devant Dieu, devant quelqu'un de plus grand que soi, devant quelqu'un qui est la perfection, devant quelqu'un qui peut vraiment nous sauver. Vous voyez, c'est la différence entre celui qui monologue avec lui-même et celui qui se tient devant Dieu. Jésus en parle. Il dit, tiens, il y a un pharisien qui vient au temple pour prier. Mais le pharisien ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse à un Dieu intérieur, à l'idole qu'il a forgée. Et il lui dit, non pas son péché, mais toutes les choses bien qu'il a faites. Et il regarde même le publicain et lui dit, bah, celui-là, il n'est pas terrible. Le publicain, lui, en revanche, quand il va dans le temple, il se tient vraiment devant Dieu. Et alors, devant Dieu, lui confesse et pleure son péché. Donc, se reconnaître pécheur, ça, c'est le minimum pour être sauvé. Et alors, on peut être comme Thérèse de l'Enfant Jésus, suivre la voie douce, facile, mais tellement exigeante, c'est vrai, puisque nous sommes dans la nuit de ce monde, et bien celle de l'enfance spirituelle.